VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 29 mars 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Jean-Roger Villon.
Pour commencer, les titres.
En RDC, combat entre l'armée et les rebelles du M23 dans l'Est. Kigali pointé du doigt par les autorités militaires du Nord Kivu.
En Guinée, la maison de l'ex-premier ministre Sélou Dalein Diallo a été rasée malgré un recours en justice.
Nouveau pourparlers ce mardi à Istanbul, en Turquie, entre négociateurs russes et ukrainiens pour tenter de mettre fin à la guerre.
Rencontre inédite hier en Israël entre des ministres arabes et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui est aujourd'hui au Maroc.
L'acteur américain Will Smith s'excuse publiquement pour avoir giflé Chris Rock aux Oscars.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, des combats ont opposé lundi l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans l'est du pays, poussant des habitants des villages de la région à fuir vers l'Ouganda. Mohamedou Mfa fait le point.
Selon le lieutenant-colonel Muindo Luanzo, directeur de cabinet de l'administrateur militaire du territoire de Rutshuru, dans le Nord Kivu, les positions de l'armée congolaise ont été attaquées par les M23 à Runyonyi et à Shanzu. Ils ont occupé nos positions et nous sommes en train de chercher comment récupérer les endroits pris par les rebelles, a-t-il indiqué. Le général congolais Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu, a affirmé dans un communiqué que le M23 était soutenu par les forces de défense du Rwanda et que l'armée de RDC avait mis la main sur deux militaires rwandais. Le nombre de réfugiés qui ont traversé depuis le Congo à la suite des combats dépasse les 4000. Les réfugiés ont commencé à arriver avant l'aube et sont venus en grand nombre, en grande partie de Bunagana, a déclaré le major Peter Mugisha, commissaire résident du district de Kisoro. Ce chiffre est susceptible d'augmenter et en raison de l'afflux, nous avons fermé certaines écoles pour les abriter temporairement avant qu'ils ne soient relocalisés par le HCR, a-t-il ajouté.
En Guinée, la maison de l'ex-premier ministre Sélou Dalein Diallo a été rasée. La junte a toutefois assuré hier qu'elle se pliera à la décision attendue de la part de la justice sur le recours introduit par M. Diallo. Éric Manirakiza.
Samedi, des bulldozers encadrés par un dispositif important de force et de l'ordre ont rasé la maison de M. Diallo et ses dépendances. Le gouvernement a décidé d'agir ainsi parce que les programmes de reconstruction sont urgents et sont sur la table. Cela n'empêche pas la justice de faire son chemin, a dit le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, ajoutant que les procédures judiciaires prennent le temps qu'il faut sans aucune interférence de l'exécutif. L'État se pliera à la décision judiciaire, quelle qu'elle soit, a-t-il précisé. L'administration affirmait que le bien appartient au domaine public, tandis que M. Diallo affirmait que son domicile est un bien privé qui lui a été vendu par l'État en 2005. Le porte-parole n'a pas dit ce que feraient les autorités si le juge donnait raison à M. Diallo. L'administration a entrepris la même démarche à l'encontre de l'autre grande personnalité politique guinéenne, en dehors du pouvoir, Sidya Touré, un autre ancien chef de gouvernement, mais sa maison n'a pas été détruite.
Au Nigeria, un train de passagers a été attaqué hier soir dans le nord-ouest du pays par des hommes armés qui ont utilisé des explosifs sur la voie sans faire de victimes avant d'être repoussés par l'armée. Le train relié à Abuja, la capitale du Nigeria, à Kaduna, une ville du nord-ouest du pays où des hommes armés avaient déjà tenté d'attaquer samedi l'aéroport. Il s'agit des dernières violences en date imputées à des gangs appelés localement bandits.
En Tunisie, le Parlement a annoncé hier la tenue d'une séance plénière demain, défiant ainsi le président Kais Saïd qui a suspendu la Chambre et s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet. La tenue de cette séance a été décidée par le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple, une instance qui regroupe la présidence du Parlement et des représentants des partis y siégeant.
Ce Parlement est présidé par Rached Ghannouchi, chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda. Avant même l'annonce de cette séance, M. Saïd avait laissé entendre qu'il la ferait interdire, affirmant, sur le ton de l'ironie, que les députés pouvaient se réunir dans une navette spatiale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ukraine, les négociateurs russes sont arrivés hier à Istanbul en Turquie pour une nouvelle session de pourparlers avec Kiev qui devrait débuter ce mardi. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Un des points des négociations entre Russes et Ukrainiens porte sur les garanties de sécurité et la neutralité. Le statut dénucléarisé de notre État a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a affirmé que ce point est étudié en profondeur, ajoutant qu'il nécessitera un référendum et des garanties de sécurité. L'oligarque russe Roman Abramovitch, qui tente de jouer les médiateurs, a souffert de symptômes qui font penser à un possible empoisonnement, rapporte le Wall Street Journal, mais ces symptômes se sont améliorés, écrit le journal américain. De nouveaux combats ont eu lieu hier dans plusieurs localités autour de Kiev, dont Stoyanka. En périphérie est de Kharkiv, les forces ukrainiennes disent avoir repris le contrôle d'un village. L'Ukraine dit avoir des preuves de l'utilisation par les forces russes de bombes à sous-munitions, des armes interdites par les conventions internationales, selon Irina Venediktova, la procureure ukrainienne.
Les autorités ukrainiennes ont également annoncé hier soir que la ville d'Irpin, théâtre de féroces combats dans la banlieue de Kiev, avait été reprise aux forces russes. Elles s'inquiétaient par ailleurs d'une aggravation de la situation dans le port assiégé de Mariupol, où au moins 5000 personnes auraient déjà péri, selon une responsable ukrainienne.
Selon le ministère britannique de la Défense, des mercenaires russes du groupe Wagner se sont déployés dans l'est de l'Ukraine. Il affirme que plus de 1000 combattants de la sulfureuse société paramilitaire pourraient être amenés à combattre dans le pays.
Selon le ministère, je cite, « En raison de lourdes pertes et d'une invasion en Ukraine largement bloquée, la Russie a très probablement été forcée de redéployer son personnel Wagner pour l'Ukraine aux dépens des opérations en Afrique et en Syrie. » Fin de citation.
L'invasion russe en Ukraine est une répétition de la Syrie avec une multiplication des crimes de guerre. Depuis plus d'un mois de conflit, a alerté Amnesty International lors de la présentation mardi à Johannesburg de son rapport 2021-2022.
Nous sommes dans des attaques intentionnelles d'infrastructures civiles, d'apidations, des bombardements d'écoles, a déclaré à l'AFP la secrétaire générale de l'ONG, Agnès Kalama, accusant la Russie de permettre des couloirs humanitaires pour les transformer en un piège mortel, s'adressant à la vingtaine d'États africains qui ont préféré s'abstenir lors d'un vote début mars à l'ONU. L'ONG a martelé que face à la Russie, il ne peut pas y avoir de neutralité.
Ici à Washington, le président américain Joe Biden a affirmé hier qu'il ne retirait pas ses propos controversés de samedi qui suggéraient qu'il souhaitait le départ de son homologue russe Vladimir Poutine du pouvoir car il exprimait son indignation personnelle et pas une politique en faveur d'un changement de régime. Le Kremlin a dénoncé lundi ce qu'il a appelé les commentaires alarmants de M. Biden samedi.
Auparavant, M. Blinken et ses homologues d'Israël et de 4 pays arabes avaient conclu hier sur le sol israélien une rencontre inédite visant à renforcer leur coopération. Lionel Gaïma.
Réunis à SDE Boker, un kibbutz du désert du Negev, où repose David Ben-Gourion, fondateur d'Israël, les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, d'Israël, d'Égypte, du Maroc, des Émirats arabes unis et de Bahreïn sont d'accord sur l'importance de renforcer leur coopération et résoudre le conflit israélo-palestinien. « Nous écrivons ici l'histoire », a déclaré Yair Lapid, chef de la diplomatie israélienne. M. Blinken a insisté sur les gains liés à la normalisation avec certains pays arabes en 2020, qui, selon lui, ne doivent pas faire oublier le conflit israélo-palestinien. Ces entretiens ont coïncidé avec un déplacement rare du roi jordanien Abdallah II à Ramallah, en Cisjordanie, où il a rencontré le président Mahmoud Abbas après sa rencontre dimanche avec M. Blinken. Le secrétaire d'État est arrivé à Rabat, où il a été accueilli par son homologue marocain Nasser Bourita et achève sa tournée demain, mercredi, par une brève étape en Algérie.
L'acteur américain Will Smith a présenté hier des excuses publiques à l'humoriste Chris Rock qu'il avait giflé la veille sur la scène de la soirée des Oscars. C'était après une blague de ce dernier sur le crâne rasé de son épouse Jada Pinkett Smith, atteinte d'alopécie, une maladie provoquant une importante chute de cheveux.
Will Smith, sacré peu après l'incident meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams, a également demandé pardon aux organisateurs et à tous ceux qui ont assisté à la scène. Ces excuses interviennent après que l'Académie des Oscars a annoncé l'ouverture d'une enquête interne sur cet incident après avoir condamné les actions de l'acteur lors du show de dimanche soir.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Le climat des affaires au Sénégal s'est dégradé de 6 points en janvier 2002 comparé au mois précédent, selon une enquête réalisée auprès des chefs d'entreprise par la direction de la prévision et des études économiques basée à Dakar. Cet indicateur est ainsi passé en dessous de sa moyenne de long terme qui est de 100. Selon Financial Afrique, ce retrait traduit le pessimisme des prestataires de services, des commerçants et des entrepreneurs. Le Rwanda a connu une forte croissance de sa production de thé, dont les exportations ont totalisé plus de 539 tonnes, selon des données officielles publiées hier. Les estimations du Rwanda Development Board montrent que la production de thé a augmenté régulièrement, passant de 60 tonnes de thé en 1958 à plus de 500 tonnes aujourd'hui. Le président américain Joe Biden a proposé hier un budget de près de 5 800 milliards de dollars pour 2023, qui reflète ses préoccupations pour l'économie et la sécurité aux États-Unis comme à l'étranger. Ce projet de budget comprend 6,9 milliards de dollars pour l'OTAN, mais aussi de porter le taux d'imposition des sociétés américaines à 28% contre 21% aujourd'hui.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. On connaîtra aujourd'hui les 5 représentants africains pour la prochaine Coupe du Monde qui se joue au Qatar à l'issue des barrages retour. Zone Afrique. Certaines sélections sont déjà sous pression, comme le Sénégal, qui a un but à remonter face à une équipe d'Égypte réputée pour son jeu défensif. Un match donc difficile et décisif pour les Lions de la Teranga, qui n'ont plus de calcul à faire que de gagner pour aller au Qatar, comme le reconnaît leur sélectionneur.
On était allé là-bas pour gagner. On n'a pas pu gagner, on ne démérite pas. Je pense que sur l'ensemble du match, le match nul était équitable pour les deux équipes. Maintenant, ce n'est pas le cas. Voilà, une défaite reste toujours une défaite. Il faut évacuer rapidement cette défaite-là. Comme je le dis, nous avons confiance en nous. Nous savons que cette Coupe du Monde-là, nous pouvons y aller. Dieu fait que ce match-là de mardi, d'un match important, devient un match décisif, qu'on se vole pas la face. Donc il faut impérativement que le Sénégal gagne.
Aliou Cissé, coach du Sénégal, au micro d'Amdine Nassi, notre consultant à Dakar. Après une première défaite 1-0, non seulement à domicile depuis 1998, mais aussi un premier revers face à l'Algérie, un match officiel, le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a raté son début. Les Lions indomptables n'ont plus d'autre choix que d'aller gagner à Blida pour valider leur ticket, tout comme le Mali à Tunis, après son échec 1-0 à domicile contre la Tunisie. Pour le coach des Aigles de Carthage, il ne faut pas s'enflammer.
On respecte énormément l'équipe malienne, un potentiel assez important. Nous savions que l'équipe de Mali, elle a une qualité extrême, des joueurs performants, des joueurs qui ont des qualités athlétiques et techniques très redoutables. Nous en met dans des difficultés énormes. Il se peut que notre respect pour cette équipe, c'est ça qui a fait la différence. Cette victoire n'aura aucune importance si on ne confirme pas le match retour. Donc pour nous, c'est un match à oublier. On sait que ça va être plus difficile pendant le match retour. Donc c'est à nous d'être toujours avertis. Inch'Allah, que ce sera comme ici un match très équilibré entre deux nations qui ont montré de très belles choses durant toute cette période éliminatoire de la Coupe du Monde.
Jalel Kadri, sélectionneur de la Tunisie, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Tout reste en revanche ouvert pour les deux autres confrontations. Le Maroc, qui a ramené le nul un but partout de son déplacement à Kinshasa, devant la République démocratique du Congo. Le Nigeria aussi est revenu du Ghana avec un résultat nul 0-0. Le duel entre les deux géants de l'Afrique de l'Ouest garde donc tout son suspense. 20 des 32 tickets pour le mondial prochain au Qatar, prévu du 21 novembre au 18 décembre 2022, ont trouvé preneur après la qualification dimanche du Canada. Les Canadiens retrouvent ainsi le mondial après 36 ans de disette, écrasant 4-0 la Jamaïque.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, la population ne cache pas son inquiétude face à la flambée des prix des produits de consommation et lance un appel à l'aide aux autorités. De Lomé, un reportage de notre correspondant Kossi Wosu.
À la sortie ouest du grand marché d'Agouenivé à Lomé, Madame Enyonam peine à contenir sa colère. Elle n'a pu faire ses emplettes comme elle le voudrait à cause des prix des produits de consommation qui ont atteint des sommets jamais égalés dans le pays.
Vraiment, la vie est devenue trop chère au Togo. Oh, avec 20 000 francs, je n'ai plus rien acheté. Avec une famille de 5 enfants, comment on va s'en sortir? Est-ce qu'il faut descendre dans les rues avant que nos gouvernants sachent que vraiment il y a la crise dans ce pays? Il faudrait qu'ils prennent en compte les problèmes des familles. Tout est devenu cher. La vie est trop chère.
Les associations de défense des consommateurs estiment que la situation est très préoccupante, d'autant que les prix des produits locaux suivent cette courbe ascendante. Emmanuel Sogadji, président de la Ligue des consommateurs du Togo.
En réalité, l'huile de 25 litres et dans les mois passés tournait autour de 20 000. Mais aujourd'hui, ça se vend presque 25 à 30 000. Et donc, ce qui fait que le litre, ça dépasse déjà 1500 et 1700. Vous prenez le maïs aujourd'hui qui est vendu, le bol est autour de 1000 francs. Et 1200, une augmentation de prix de autour de 15 à 20% de prix. Et même du gari qui était hier, une denrée classée en dernière position, tourne autour de 1500, 1200, 1300. Alors, on ne pouvait que le trouver à 600, à 700. Donc, ce sont quelques exemples que nous voulons donner pour illustrer parfaitement la situation en matière de réinsertion des prix sur le marché.
Les associations des consommateurs qui discutent avec le gouvernement souhaitent qu'ils prennent exemple sur certains pays de la sous-région. Benetti Gagalo, vice-président de l'Association togolaise des consommateurs.
Dans la sous-région, des mesures sont prises pour atténuer cette vie chère. La diminution de la TVA sur certains produits de première nécessité. Dans d'autres pays, on a même plafonné les prix et on a élargi la gamme des produits de première nécessité. Au Togo et les associations de consommateurs, nous discutons avec le ministre du Commerce. Nous espérons que les mesures similaires vont être prises dans un plus bref délai.
Le gouvernement affirme que la farine de blé, le riz et les produits pétroliers ont toujours été subventionnés à coût de milliards de francs CFA pour peser sur l'inflation. Le porte-parole du gouvernement, Akoda Ayewadan, a indiqué que des annonces sont attendues vers la fin de la semaine qui va correspondre au début du Ramadan pour les musulmans togolais. Kossi Wosu, Lomé, pour VOA Afrique.
Ajoutons que le gouvernement togolais vient d'opérer une nouvelle mesure d'ajustement des prix des produits pétroliers selon un communiqué lu hier soir sur la télévision nationale. L'État a décidé de l'augmentation du prix des produits pétroliers. Ainsi, à partir de ce 29 mars, le super passe de 505 francs CFA à 595 francs CFA. Le gasoil passe de 520 francs CFA à 605 francs CFA. Le pétrole en pont passe de 400 francs CFA à 550 francs CFA. Le prix du gaz domestique reste inchangé, soit 500 francs CFA le kilo, nous dit notre correspondant.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Cameroun, les consommateurs sont de leur côté inquiets de la tendance à la hausse des prix sur le marché depuis le déclenchement de la crise en Ukraine. Les prix du sucre, de la baguette de pain et de la farine de blé ont augmenté ces derniers jours. Et le gouvernement a prévenu la population. Un reportage d'Emmanuel Jules Tap, notre correspondant à Yaoundé.
Vous savez qu'on a augmenté le prix de la farine. Nous sommes aussi obligés d'augmenter aussi le prix du pain.
Une réponse laconique d'un gérant d'une boulangerie dans le quartier populaire de Mvoumbia Yaoundé face à un client surpris du nouveau prix de la baguette de pain. Jean-Claude Tagné est le gérant de la boulangerie.
Avant, on achetait à 19 500 le sac. Et maintenant, ça monte déjà à 25 000, 26 000 francs. Voilà pourquoi on va maintenant le pain qu'on vendait à 125, c'est maintenant à 150.
Au coin d'une ruelle, au quartier Mvogada, dans le 4e arrondissement de la capitale, Issa vend des beignets de farine de blé. Le jeune pâtissier redoute déjà l'incidence de l'augmentation du produit sur ses bénéfices. Les élèves sont comptés parmi sa plus grande clientèle.
Nous sommes obligés de diminuer un peu la grosseur des billets parce qu'on a commencé avec le nouveau sac de 25 kilos et on ne sait pas combien ça peut nous donner d'abord. Bon, on a préféré d'abord maintenir d'abord avec la même. Après, on va diminuer. Après, si ça ne va pas, on va diminuer la même.
La hausse concerne d'autres produits de première nécessité. Depuis le 14 mars dernier, la société sucrière du Cameroun a revu le prix du sac de 50 kg de sucre blanc qui coûte maintenant 29 800 francs CFA dans les trois régions de la partie septentrionale et 28 750 à Yaoundé. Auparavant, il coûtait 27 500 francs CFA.
C'est une augmentation factice et légale.
Dès lors, Magellan Kamgem Kamse, président de la Ligue camerounaise des consommateurs.
Il n'y a que le gouvernement camerounais, conformément à la loi du 21 décembre 2015 régissant les activités commerciales. Donc cette loi-là qui donne mandat au gouvernement à travers le ministère des Prix de pouvoir donner son mot sur certains produits de grande consommation dont les prix sont soumis à homologation préalable, y compris le sucre. Donc le prix du sucre ne peut pas être fluctuant ou fluctué par la seule volonté des producteurs.
Les consommateurs disent être pris dans un engrenage suite à la crise entre l'Ukraine et la Russie.
On n'est pas avisé, les prix augmentent, ça ne descend jamais. On aimerait que ces prix-là descendent. Ce n'est pas seulement la farine, dernièrement c'était l'huile, que le gouvernement essaye un peu de faire que le Camerounais moyen essaye aussi de vivre.
La ration qu'on donne, vraiment ça ne donne pas. Et ça crée les disputes même au sein du foyer.
Les prix ont augmenté drastiquement. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on se demande même si nos autorités s'en rendent compte. Les prix augmentent sur le marché, mais les salaires restent statiques depuis plusieurs années.
Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, a annoncé que, citation, « la crise en Ukraine aura des impacts au Cameroun, car 50% des importations du blé dépendent de la Russie et de l'Ukraine ». Fin de citation. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Élu le 25 mars 2012, le président sénégalais Macky Sall vient de boucler 10 ans à la tête de son pays. Une occasion pour voir les points forts et les points faibles de sa gouvernance avec des Sénégalais, interrogés par notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Le président Macky Sall ne fait pas l'unanimité, mais pour certains citoyens, c'est le meilleur président sénégalais depuis les indépendances. Omar Gueye est catégorique.
Macky Sall a fait d'énormes réalisations qu'aucun président n'a pu faire de Senghor à Ouad en passant par Diouf. Les infrastructures qu'il a construites en témoignent. Les ponts, les bus rapides de transit, le train express régional sont parmi toutes ces réalisations qui montrent que son bilan est plus que satisfaisant. J'ai jamais voté pour lui, mais j'aime bien tout ce qu'il a accompli. Et beaucoup de pays africains nous envient. Tous les autres Africains apprécient son travail et ça veut dire beaucoup de choses. Chaque pays voudrait l'avoir comme président.
Sur le plan des infrastructures, Harouna Faye reconnaît les réalisations du président Macky Sall. Cependant, il juge que sa politique sociale n'est pas une réussite.
Ça fait très longtemps que nous subissons beaucoup de manquements au sein de notre société. Sur le plan de l'eau, il y a des pénuries d'eau intempestives qui nous bousculent la vie. Le bilan que je peux tirer, c'est un bilan, je ne dirais pas que tout est négatif. Certes, il a fait des réalisations sur le plan sportif, comme la construction du stade d'Abdoulaye Wade. C'est vraiment une innovation sur le plan footballistique international et plein de choses. Mais bon, ça reste à voir parce que la population a faim, a soif. Le pouvoir d'achat est très limité. c'est vraiment dur pour le Sénégal. J'espère qu'il fera vite son mandat, il pourra partir, un autre vient, pour pouvoir changer les choses.
Même son de cloche chez les jeunes qui s'attendaient à beaucoup mieux, suite notamment aux différents projets annoncés en leur faveur. Abdoulaye Koulibaly étale ses regrets.
Il devrait plus miser sur l'emploi des jeunes. Il y a beaucoup de promesses à l'endroit des jeunes vis-à-vis de leur employabilité, mais toujours rien. On a beaucoup espéré et on espère toujours, mais sur ce point, pour moi, il y avait mieux à faire. Concernant les infrastructures, vraiment, il n'y a rien à dire. Depuis qu'il est là, tout fonctionne à merveille. De tous les présidents Wade Diouf Senghor, il en a le plus fait. Les déplacements sont devenus plus faciles, mais ce n'est pas suffisant. Les jeunes doivent trouver un emploi.
Un constat partagé par Sadia Cissé, une jeune dame qui se dit désabusée par le manque d'emploi pour la jeunesse.
Bon, il a fait 10 ans, oui, mais j'ai vu que les réalisations concernant juste les constructions et concernant les jeunes, j'ai rien trouvé de grandes choses. Il doit améliorer de stratégie, ou bien ces années ont écoulé, qu'il laisse le pouvoir.
D'après ses citoyens sénégalais, le président Macky Sall présente un bilan mitigé au bout de 10 ans au pouvoir. Cependant, tous s'accordent à dire que son bilan sur le plan des infrastructures est très positif et de loin le meilleur parmi tous les présidents du Sénégal. Sédina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, des centaines de personnes ont manifesté le week-end passé à Ouagadougou pour exiger un partenariat militaire avec la Russie et non avec la France. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
La manifestation devrait se tenir à la place de la Nation à Ouagadougou, mais les forces de l'ordre se sont opposées. Finalement, elle a lieu dans une salle du CBC, le Conseil Burkinabé des Chargeurs. Plusieurs centaines de personnes réclament une coopération militaire avec la Russie pour lutter contre le terrorisme.
Ah, on avait une ligne, nous venons ici. C'est l'Égypte que nous faisons. La France, c'est pas bon. La France, qui de un, n'arrive pas à nous fournir des armes qu'il faut pour nous défendre, c'est-à-dire que donc la collaboration n'est pas fiable. Et si la France nous a conduit pendant 60 ans, et nous jusqu'à aujourd'hui nous n'arrivons pas à acquérir une armée forte, donc ça veut dire qu'il y a une erreur à quelque part. Et si la France n'est pas capable de nous satisfaire en matière de ce que nous sollicitons, nous préférons choisir une autre personne, un autre pays pour pouvoir collaborer. Nous voyons qu'aujourd'hui, la Russie est au Mali, et nous voyons que l'état du Mali s'est stabilisé par rapport à le Burkina.
Lassane Sawadogo est le coordonnateur du mouvement La France doit partir.
Pour dire non à la présence des forces françaises au Burkina Faso et aussi demander aux autorités burkinabées, précisément le colonel Damiba, d'avoir une collaboration russe. Uniquement, c'est ce que nous voulons. Parce que si on demande la Russie, ce n'est pas parce qu'on aime la Russie. Si on demande la Russie, ce n'est pas parce que la Russie est meilleure. Mais nous nous rendons compte que la Russie est prête pour défendre toute personne qui est dans la position de détresse. Nous avons estimé de bonne volonté de demander au président Damiba d'avoir une collaboration chaîne avec la Russie. Et la paix au Centrafrique, précisément au Mali, tout juste à côté. Nous demandons simplement la collaboration russe. C'est ce que nous avons demandé, pas autre chose.
Mais beaucoup ne sont pas de cet avis. Pasien est analyste politique.
Le salut du peuple burkinabé ne viendra pas dans notre pays. On doit d'abord compter sur les ressources internes. Les partenariats doivent être diversifiés. Mais on ne doit pas penser qu'il y aura un pays qui va venir se poser en messie. Il n'y aura pas de sauveur dans notre pays. Oui, pour la diversification des partenariats, pas forcément la Russie ou seulement la Russie, mais diversifier partout où on peut trouver des gens qui nous aident. Il ne faut pas que ce soit des personnes qui se substituent à nos soldats sur le terrain.
Pour l'heure, les autorités de la transition n'ont affiché aucune intention de collaborer ni avec la France, encore moins avec la Russie. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Jean-Roger Bion au micro. Lionel Gaïma était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.